Bonjour à vous, amis des fées qui choisissez de nous écouter. Bonjour et bienvenue dans notre émission « Il était une fois en Cornouailles » sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouailles bretonne. Toute cette année, nous avons abordé les légendes de Cornouailles par thème. Il est plus que temps, à l'approche de l'été et de la période des promenades, de passer en revue les endroits les plus légendaires de notre région. Aujourd'hui, nous nous promènerons dans les Monts d'Arrée. Comme nous n'avons pas reçu d'éléments pour le faire cette semaine sur notre page Facebook, il n'y aura pas d'histoire improvisée dans une seconde partie. C'est donc une région particulière que ces Monts d'Arrée. Si à minuit vous êtes encore dehors et que vous entendez une cornemuse dont les sons n'ont rien d'humain sans pouvoir voir celui qui en joue, c'est que vos aïeuls vous attendent. Vous les trouverez assis autour d'un chêne ou d'une pierre druidique. Leurs emplacements tout autour sont marqués par des tisons enflammés. Nous allons commencer notre balade d'aujourd'hui par le marais de Saint-Michel-en-Brasparts, qui était, il y a plus de 1000 ans, occupé par une vaste forêt au milieu de laquelle s'élevait un château superbe. Une nuit d'hiver, un pauvre pèlerin y pénétra et demanda au baron une petite place sur son domaine pour y élever un oratoire. Le seigneur qui vivait là avait fait un pacte avec le diable. En échange de la création d'une porte des enfers sur son domaine, Satan pourvoyait à sa richesse. C'est pourquoi le baron démoniaque, furieux, fit mettre le pèlerin au cachot et déclara que le lendemain, ce dernier servirait de bête à chasser dans la forêt. On lui donna 100 pas d'avance et la meute fut lancée après lui. Mais au milieu de la chasse, un page vit le pèlerin déployer des ailes et s'envoler devant les chiens. Lorsqu'il arriva au sommet de la montagne, le baron vit, à la place du fugitif, un ange resplendissant de lumière. « Je suis Saint-Michel, » dit-il dans une voix de tonnerre. « Ton impiété a permis aux enfers d'avoir un accès permanent sur cette terre, ta terre. Aussi n'y aura-t-il plus que des bruyères et de la lande inculte, là où avant s'élevaient forêts et prairies. Et je me ferai édifier une chapelle pour veiller à ce que rien ne s'échappe de la porte que tu as permis de construire. » Le baron fut frappé par la foudre et englouti par la terre. Depuis, dans la vallée, là où s'élevait son très riche domaine, il n'y a plus que des bruyères, et que l'on dirait brûlées par un feu souterrain, ainsi qu'un sombre marécage entouré de noirs taillis, le Yonélaise. C'est ce marais où Lankou, le serviteur de la mort, aurait élu domicile. Il s'étend sur les communes de Brasparts, Saint-Rivoal, Bottemeur, La Feuillée, Brénilis et Loquefret. Au milieu de cette vaste étendue de tourbières bouillonne une mare noire, croupissante et sans fond. C'est le Youdik, la petite bouillie, sans doute la porte de l'enfer la plus célèbre et la plus redoutée de Cornouailles et de Bretagne. Le Youdik ne conduit pas à l'enfer brûlant des chrétiens, mais à un monde glacé et obscur, le monde de l'attente, l'enfer froid des morts tel qu'il apparaît dans les mythologies celtes et nordiques. C'est à cet endroit que, de toute la Bretagne, on venait jeter les chiens noirs dans lesquels les esprits mauvais avaient été exorcisés par les prêtres, puis emprisonnés. Par précaution, nous l'avons vu, l'archange Saint-Michel a gardé un pied-à-terre à cet endroit pour surveiller ce qui s'y passe. C'est le mont Saint-Michel avec à son sommet la chapelle qui lui est consacrée. On s'y rendait pour la 30e messe des défunts, au temps où il était habituel en Cornouailles de faire pour chaque défunt une série de 30 services. Cette messe se disait à rebours, et sur l'autel, on allumait qu'un des cierges. Le prêtre qui allait la dire devait être à la fois très savant et très hardi. Dès le bas de la montagne, il se déchaussait et gravissait la pente pieds nus, car il devait être prêtre jusqu'à la terre. Tous les défunts de l'année se rendaient à cette messe. Tous les diables aussi y comparaissaient. Le prêtre montait en brandissant son goupillon, et en faisant de tous côtés de continuelles aspersions, et les âmes défuntes s'empressaient autour de lui pour en recevoir quelques gouttes. La messe dite, il ouvrait son agrippa, son manoir de sorcellerie si vous préférez, et commençait l'appel des diables dans le porche. Ces derniers accouraient et il les faisait défiler devant lui un à un, les obligeait à montrer leurs griffes pour voir si l'âme du défunt, à l'intention duquel était célébrée la neuvaine, n'était pas tombée dans leur possession. Il les renvoyait ensuite en donnant à chacun une graine de lin, car un démon ne se déplace jamais pour rien. S'il commettait une seule omission, il était contraint de livrer en échange sa propre personne. Au pied du mont Saint-Michel de Braspart, un alignement mégalithique comporte 77 petits menhirs sur 300 mètres de long, orientés est-ouest, et d'une dizaine de petits menhirs selon des orientations sécantes, et tout cela porte le nom de noces de pierre. La légende veut en effet qu'une noce paysanne, possédée par le démon de la danse, ait refusé de laisser le passage au recteur de Braspart qui allait porter l'extrême onction à l'un de ses paroissiens mourants. Le prêtre ainsi que l'enfant de cœur qui l'accompagnait ont dû marcher à travers les Landes et la broussaille pour accomplir leur mission. Quant aux noceurs, ils ont été punis par le ciel pour leur méchante attitude. À la dernière note de leur dernière danse, ils ont tous été changés en statues de pierre. Outre Saint-Michel et sa chapelle, un autre saint plus discret a élu résidence dans les Monts d'Arrée. C'est le Santi Cose, que l'on pourrait appeler en français « vieux petit saint ». Il arrive tous les 1100 ans, à 11 heures, que le roc Trévézel, qui marque la limite entre la Cornouaille et le Léon, s'ouvre et révèle à l'audacieux qui ose entrer des salles remplies de pommes plus appétissantes les unes que les autres. Si on ne se laisse pas trop distraire, on parvient au fond à une dernière salle où se trouve une petite statuette en bois qui réalise tout ce que l'on souhaite. On l'appelle Santi Cose, ou vieux petit saint, comme je l'ai déjà dit. Il suffit de lui frotter la tête en formulant son souhait, et il est réalisé dans la seconde qui suit. Une sorte de lampe d'Aladin à la mode cornouaillaise. Un jeune homme qui avait pu le récupérer s'en servit pour devenir riche et se marier. Une fois établi, son épouse, qui pensait lui faire plaisir, échangea la vieille statue du saint contre une neuve. Le jeune homme remua ciel et terre pour retrouver sa statue, mais lorsqu'il y parvint, le vieux saint lui déclara qu'il en avait fait assez pour lui et qu'il retournait au roc Trévézel pour 1100 nouvelles années. Mais il n'y a pas que des saints dans les Monts d'Arrée, loin s'en faut. Le diable rôde et se montre parfois sous des aspects inhabituels, comme dans le conte qui suit. À une époque où le compagnonnage existait, tous les ouvriers faisaient leur tour de France. Un matin, deux compagnons charpentiers quittèrent Rennes pour se rendre à Brest, où ils espéraient trouver de l'ouvrage. Après 5 jours de marche, ils parvinrent à Brénilis en début d'après-midi. Après avoir repris un repas dans l'auberge de Marguerite Courtillon, rue de la Rouère, ils s'en allèrent se reposer sur les bords du bel étang qui fait l'ornement de la petite ville. Comme ils étaient fatigués, ils se couchèrent sous les tilleuls, où ils ne tardèrent pas à s'endormir. Lorsque les deux voyageurs se réveillèrent, les étoiles commençaient à briller au firmament. Ils prirent un bain pour achever de se défatiguer et continuèrent leur route. Le repos qu'ils avaient pris avait été de trop courte durée sans doute, car ils marchaient péniblement. Leurs pieds butaient contre les cailloux et la conversation languissait. En montant les monts d'Arrée, l'un des voyageurs dit à son camarade « Ah, il nous faudrait une jeunesse bien éveillée pour nous émoustiller un brin. » Hélas, répondit l'autre, les jolies filles ne courent pas les chemins par ailleurs. Celui-ci venait à peine d'achever ces mots, qu'il entendit piétiner à leur côté, et ils aperçurent, sans savoir d'où elle venait, une femme qui leur sembla jeune et qui leur demanda la permission de faire la route avec eux. Bien qu'ils fussent de solides gaillards, ils éprouvèrent un sentiment d'effroi, tellement l'apparition de cet inconnu avait été subite et tellement sa présence dans ce lieu désert leur semblait étrange. Sous le prétexte qu'ils étaient pressés, ils allongèrent le pas, espérant ainsi se débarrasser de cette jeune femme. Mais ils eurent beau faire, elle marchait tout aussi vite qu'eux. Lorsqu'ils atteignirent le village de Cizin, ils virent de la lumière dans un cabaret, et le moins brave des deux voyageurs déclara qu'il avait soif et qu'il allait entrer se rafraîchir. Son camarade le suivit et l'inconnu en fit autant. Tous les trois pénétrèrent donc dans l'auberge et prirent place à une table où on leur servit une bouteille de vin blanc. L'un des compagnons remarqua à la lueur de la chandelle que la voyageuse avait au bout des doigts des griffes qui perçaient ses gants et des pieds qui ressemblaient plutôt à ceux d'un jeune poulain qu'à ceux d'une femme. Il fit part de sa découverte à son camarade qui se leva de table comme pour aller allumer sa pipe au foyer. Mais, avisant l'aubergiste, il lui fit signe de sortir et lui raconta la rencontre qu'ils avaient faite et ce qu'ils venaient de voir. L'aubergiste en question était un ancien militaire qui n'avait pas froid aux yeux. Aussi dit-il, « Soyez tranquille, je me charge de tout. Seulement, invitez-moi à boire avec vous. » Lorsque tous les quatre furent à table, l'aubergiste prit son verre et au lieu de le porter à ses lèvres, il en jeta le contenu à la figure de la voyageuse. Un bruit semblable à une explosion se produisit. La vaisselle de la maison fut brisée, les vitres de la fenêtre volèrent en éclats, mais le diable, car c'était bien lui, avait disparu. Les deux ouvriers continuèrent leur voyage sans pouvoir deviner comment le cabaretier s'y était pris pour les débarrasser de leur compagne de route. Ce n'était pourtant pas sorcier. L'aubergiste s'était servi un verre de liqueur de chartreuse, l'alcool distillé par les moines du même nom et béni avant d'être mis en bouteille. Voilà qui clôt la première partie de notre émission. Avant de poursuivre notre balade dans les légendes des Monts d'Arrée, je vous propose une petite pause musicale. Merci d'être resté avec nous. Sur la route, venant du Fou et à peu de distance de Brasparts, se dresse un menhir, Roc Braz, la grande roche. Tout après s'ouvre encore un vieux chemin dans lequel vient s'épandre un petit ruisseau. Ce chemin qui part de l'église était en fait l'ancienne route du Fou et cheminait par Roc Braz, Botquest, Rue Gornou, Croix Saint-Sébastien. C'était là la route quotidienne de Saint-Ugent qui vivait à Kerbraz. Au pied du menhir, sous la route actuelle du Fou, dans ce qui était autrefois une lande caillouteuse, tout embroussaillé, se trouve, dit-on, un trésor. Certaines nuits, on entendait les pièces s'entrechoquer, l'on racontait que ce trésor était gardé par quelques corilles, ces corrigans qui habitent les Landes et qui passent leur nuit à danser des rondes au clair de la lune. Des fées d'eau erraient tout autour sans bruit et toujours deux par deux. Au temps dont je parle donc, les corilles étaient encore assez nombreux et la nuit venue, bien peu de gens osaient s'aventurer près du roc Braz. Être entraîné dans la ronde infernale des corilles jusqu'au chant du coq n'était pas pour rassurer les bras spartiates. Sans compter qu'en contrebas, il y avait un lavoir que les commères disaient occupé les nuits de novembre par les canéresnoses, ces terribles lavandières de la nuit qui battaient leurs draps mortuaires en chantant le bien triste refrain « Jusqu'à ce qu'ils ne viennent, chrétiens sauveurs, il nous faut blanchir notre linceul sous la neige et le vent. » Trois hommes de la paroisse, forts et courageux, car bon cornoyer, avaient, comme beaucoup d'autres, entendu parler de ce trésor. Ils se nommaient Fanche, Lannick et Yvon. Un soir de novembre, quelque peu éméchés par le bon cidre de François Lemeur, ils s'enhardirent et décidèrent de savoir. « Allez, laisse aller, c'est un conte pour les enfants, essayons toujours, » dit-il. Et rendez-vous fut pris pour le lendemain soir. Et voilà nos compères attendant la nuit, faisant le tour des cabarets et auberges du bourg, fort nombreux à cette époque, évidant bolets de cidre sur bolets de cidre. L'horloge de l'église sonne à 11 heures, les trois amis se décidèrent, partirent récupérer qui une pioche, qui une pelle, et se retrouvèrent au pied du menhir. La terre étant meuble, les travaux furent d'abord aisés, et puis on tomba sur des pierres et nos trois lascars s'encouragèrent. Lors d'une courte pause, ils découvrirent qu'un petit homme s'était assis non loin de Roc Braz et les contemplait. « Bonsoir les amis, vous voilà bien en peine, que cherchez-vous à pareille heure ?» Aucun des trois ne lui répondit tant ils étaient occupés à besogner. Et le petit homme riait. « Peut-être est-ce une bonne fortune que vous cherchez, creusez mes amis, creusez. Voilà un tintement qui devrait vous plaire. » À cet instant, les compères entendirent résonner sous leurs pelles et leurs pioches un tintement métallique, et un coffre apparut rapidement. Et le petit homme riait. « Courage, dégagez-le, vous y êtes !» Pourtant, nos amis avaient beau s'escrimer autour du coffre, celui-ci semblait s'enfoncer dans la terre à chaque pelletée, tout en émettant un son pareil à celui de pièces qui s'entrechoquent. Et le petit homme n'était plus seul maintenant, toute une troupe de nains entourait les trois compères et commençait leur ronde. Fanche, épuisé par le labeur, venait à son tour de faire une pause. Il fut saisi par les poignets et entraîné par les corilles au milieu de la lande. Quant à Lannick et Yvon, ils œuvraient sans cesse, rêvant au trésor enfoui. Un trésor qui s'enfonçait toujours. Soudain, la caisse sembla tomber dans un puits d'une profondeur incroyable, faisant teinter l'or s'y convoitait une dernière fois. Tout disparut dans des gerbes de feu. Le lendemain, le bedeau de Braspar, homme sage et pieux, qui logeait à Kéranilise, à l'entrée même du chemin qui mène à Roc Braz et faisait sa promenade quotidienne, retrouva deux corps calcinés au pied de Roc Braz. Quant à Fanche, on le retrouva plus tard, mort d'épuisement au milieu de la lande, pas très loin de Tuchénou. Certains disent que le bedeau les revit un jour tous les trois dans le cimetière de Braspar, près du tombeau de Fanche, et qu'ils le prièrent de faire célébrer une messe pour leur âme. Le recteur décida de christianiser les lieux et une statue de la Vierge fut installée au sein même du Roc Braz. On n'entendit plus jamais parler de son trésor, des corrigans et des lavandières de la nuit, du moins en ces lieux. Si le diable n'était jamais loin, les habitants des Monts d'Arrée savaient aussi comment se débrouiller pour lui échapper, et même entrer au paradis alors qu'il n'y était pas forcément invité. Franchi Kernès était né à Coatcompès, en Braspar, presque au pied du Mont Saint-Michel. C'était un homme qui faisait honnêtement son métier de cultivateur, vivant avec sa famille dans une bonne aisance, et ne médisant pas de ses semblables, aimant son prochain, remplissant de son mieux ses devoirs de chrétien, à tel point qu'il devint par sa conduite un des meilleurs paroissiens du recteur qui le citait souvent en exemple au village. Cependant, au bourg de Braspar, Franchi Kernès avait un vague cousin du même nom et prénom, connu à la ronde sous le sobriquet de Potic Kernès. Bien qu'apparentés, presque du même âge, les deux cousins ne se ressemblaient pas. Autant Franchic de Quatrecompès avait une existence irréprochable, autant son cousin, Potic, menait une vie désordonnée. Potic ayant passé sa jeunesse dans l'armée, il y avait contracté de mauvaises habitudes. Il était ivrogne, menteur, mécréant, bref, un mauvais sujet, fuyant les gendarmes qui essayaient parfois de le calmer, et évitant le recteur qui tentait de le ramener à la raison. « Moi je suis libre, je ne connais ni chef ni supérieur. Buvons, dansons, prenons la vie du bon côté. Elle est trop courte pour qu'on la gâche, » avait-il l'habitude de dire. Maréchal Ferrand, il ne séjournait pas longtemps chez le même patron où toujours quelqu'un ou quelque chose le contrariait. Il avait couru toute la Cornouaille sans trouver la bonne place dont il rêvait. Puis un jour, vieilli, fatigué, repenti, il revint mourir à Brasparts, n'ayant même pas un écu pour faire réciter une prière à son intention. Et c'est ainsi qu'il se présenta à la porte du paradis. Toc toc. Par le Judas, un œil le dévisagea. « Votre nom et adresse, s'il vous plaît. » Ne se sentant peut-être pas en règle, Potic se présenta sans donner de détails. « Franchic Kernès de Brasparts. »« De Quatrecompès ? » ?»« Oui, c'est bien moi. » « Alors entrez, votre place est réservée en raison de votre bonne vie terrestre qui nous a donné satisfaction. Ce n'est pas comme votre cousin Potic du bourg, celui-là on l'attend aussi sans tarder, mais pas ici bien sûr. » C'est donc par ruse, par mécompte, en trichant, que Potic entra au céleste séjour avec les fonctions d'aide-portier, par ordre d'un tout petit secrétaire qui le reçut en l'absence de Saint-Pierre, alors en vacances. Dans son nouveau poste, Potic se tenait très bien, essayant de se montrer digne de la charge qui lui avait été confiée. Jamais le grand portail, les vitres du ciel, ne furent plus propres. Tout brillait et c'était un plaisir de les voir. Cependant, les habitués avaient remarqué que Potic ne s'éloignait guère de la porte d'entrée. On aurait dit qu'il attendait quelqu'un pour être le premier à lui souhaiter la bienvenue. Ce quelqu'un, bien sûr, c'était son cousin, Franchic Kernès de Quatrecompès, dont il tenait la place illégalement. Aussi, vous comprendrez que notre lascar n'avait pas hâte de le voir arriver, par crainte d'une explication orageuse. Il arriva cependant un jour. Potic, qui guettait les entrées, le reconnut de loin. À travers les carreaux de son plumeau, il lui fit signe d'attendre et il attendit 100 ans. Au bout de ce temps, impatienté, malgré les signaux désespérés de Potic, il osa frapper au portail où Saint-Pierre était de service. « Toc, toc. Qui est-ce ? Franchic Kernès de Quatrecompès en Brasparts. Mais vous êtes au ciel depuis 120 ans déjà. Ah, ce n'est pas possible puisque me voilà, il doit y avoir une erreur. Non, 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 les registres sont là, votre nom est pointé comme entrant, vous êtes aide-concierge. Mais nous étions deux, Franchic Kernès à Brasparts, il y avait moi et mon cousin Potic, mort depuis très longtemps. » « Tiens, tiens, je parie qu'il y a eu un malentendu pendant que j'étais en vacances, » dit Saint-Pierre. On compare les registres et les listes nominatives avec les adresses exactes et l'on s'aperçoit vite du subterfuge. Alors Saint-Pierre, l'œil courroucé, s'adresse à Polyc. « Comment, gredin, tu as osé donner un faux nom pour usurper la place d'un honnête homme, de ton cousin en plus ?» Il appelle le petit secrétaire qui dut reconnaître avoir admis Potic par mégarde, n'étant pas très au courant des us et coutumes des fonctions de portier. « Comment allons-nous arranger cela ?» dit Saint-Pierre. « Je sais que ce n'est pas tout à fait la faute de Potic, mais plutôt la vôtre, petit secrétaire. Aussi, je vous préviens que votre avancement sera retardé. Cependant, comme nous n'avons pas l'habitude d'expulser nos bons serviteurs, nous sommes dans l'obligation de garder Potic, qui d'ailleurs est un excellent travailleur ici. » Et c'est ainsi que Potic, le joyeux luron, fut encore plus heureux au ciel qu'il ne l'avait été sur terre. On peut dire qu'il était né sous une bonne étoile. Cela clôt notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Il était une fois en Cornouailles », 26 minutes en terre des fées, rien que pour vous, avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. Kenavo, Avéchal.